et bienvenue si vous nous rejoignez. Vous tombez en plein midi de culture, mais venez, il y a de la place. À 13h, je recevrai le groupe Feu Chatterton et tout de suite, on retrouve Marie Sorbier pour le Point Culture. Bonjour.
Bonjour Marie. Ouvre ses portes ce week-end à Paris, la cité immersive des fables. Alors qu'est-ce que c'est, me direz-vous? Eh bien, voilà, ça se présente comme, je cite, un parcours immersif et sensoriel comptant la participation de grands comédiens de la scène française pour partir à la découverte de Jean de La Fontaine et de ses célèbres créatures. Fin de citation. Alors au générique, on retrouve Alexandre Astier, Ariel Dombal, Laurent Stocker de la Comédie Française ou encore Marie Saint-Filtre, grimée en renard, en grenouille ou alors portant de longues perruques à bouclettes que vous pouvez admirer moyennant 19,90€ dans cette nouvelle cité immersive. Alors ce n'est pas la première fois que de tels projets s'installent, mélange de marketing et de patrimoine qui érige le mot immersif comme une valeur séduisante pour tous et contemporaine. Qu'est-ce qui se cache derrière la mode de l'immersif dans l'univers culturel? C'est le dossier du Point Culture du jour. Jessica de Bideron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Bordeaux-Montaigne. Alors depuis plusieurs années, les institutions culturelles développent de plus en plus des propositions dites immersives. Alors derrière ce mot, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs expériences possibles. Peut-être pourriez-vous, pour commencer, nous définir ce mot. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par une expérience immersive?
Alors le principe de l'immersion, c'est un principe qui est un peu complexe à définir, mais on va dire que on s'entend en général pour dire qu'il y a une sorte d'absorption du public en question, c'est-à-dire que ça, on va lui donner l'impression d'être dans un autre temps, un autre lieu, et de le couper en réalité de sa réalité quotidienne et du présent. Donc ça, c'est un peu le principe général. Et ensuite, on va aussi travailler sur les différents sens qu'on va aller solliciter. Donc le sens qui est le plus sollicité, c'est la vue, en fait. On va enfermer les publics, le visiteur, dans une sphère immersive, par exemple. Mais on peut aussi faire appel à l'odorat, au toucher et à différents types de sens.
Est-ce que les lunettes qu'on voit parfois font partie de cette expérience immersive? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça change d'être, j'allais dire, tout seul avec ses lunettes et le monde qu'elles nous proposent, à la place d'une expérience plus collective qui est peut-être de déambuler dans les allées d'un musée?
Alors effectivement, aujourd'hui il y a une mode des lunettes en réalité virtuelle, des lunettes immersives qu'on retrouve à la fois utilisées soit par des institutions culturelles très classiques type musée par exemple, ou qu'on retrouve aussi dans des propositions portées plutôt par des acteurs industriels. Mais on a pu observer avec un certain nombre, avec des groupes d'étudiants qu'on a menés l'année dernière, donc des travaux qu'on a menés à la fois donc dans une structure muséal très classique, une maison d'écrivains, le Centre François Mauriac de Malaga, qui a une proposition avec casque de réalité virtuelle, mais aussi avec des structures type Eclipso, qui sont des structures donc pas du tout muséales, qui proposent des aventures immersives, mais toujours à connotation patrimoniale, muséale. C'est qu'en réalité, les publics sont pas forcément si isolés que ça. Il y a vraiment une interaction qui se crée, une sorte de ce qu'on appelle les médiations réciproques dans l'univers muséologique, c'est-à-dire que on voit les publics interagir, se poser des questions, enfin voilà, solliciter le ressenti des individus avec lesquels ils réalisent ces expériences.
Alors peut-être avec les autres personnes qui sont là à l'instant T, mais on voit peu, par exemple, de médiation humaine dans ce type de proposition immersive. Dans les musées, il y a parfois des gens qui sont là pour expliquer telle œuvre, tel parcours d'exposition. Dans les parcours immersifs, on est souvent tout seul, que ce soit avec un casque ou pas, et on déambule dans un univers qui a été préparé pour soi. Est-ce que ce manque d'humain change quelque chose à la réception?
Alors c'est évident que ça change quelque chose à la réception, et vous avez tout à fait raison, c'est une vraie problématique de ces expériences. Alors là on parle de choses qui en réalité sont très très différentes, faut quand même avoir conscience que quand par exemple une structure type Centre François Mauriac de Malaga propose cette expérience, parallèlement, la structure conserve l'accessibilité en fait à la maison avec une médiation présentielle très classique et des interactions avec des médiateurs et médiatrices.
Oui, c'est une pièce en plus, quoi. Mais les œuvres sont là.
C'est une proposition en plus qui est destinée plutôt à un public de jeunes adultes, on va dire, et qui est faite lors de vacances scolaires, par exemple. En revanche, on assiste à des structures qui vont, elles, être privées. Je pense, par exemple, au bassin des Lumières qu'on a à Bordeaux, hein, qui est géré par Culture Espace et qu'on retrouve à Paris avec l'Atelier des Lumières ou la Carrière des Lumières au Beau-de-Provence, où là, effectivement, on a des propositions immersives. Alors là, c'est pas un casque, mais c'est dans un environnement où le visiteur est vraiment immergé dans des projections très très grand format, une proposition de création, voilà, d'art numérique.
Avec du son aussi également. Enfin, on est vraiment, pour le coup, immergé au sens premier du terme dans ces espaces-là.
Complètement, on est immergé au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'on perd vraiment la notion du temps, de l'espace. Voilà, on va expérimenter quelque chose, on va faire vivre quelque chose au public, mais on n'est pas forcément sur une transmission d'informations. Et donc, à défaut, on trouve peu ou pas du tout de médiation présentielle dans ces propositions. Donc, en fait, on loupe aussi une forme d'expérience, parce que faire une visite avec un médiateur, avec un guide conférencier, c'est aussi une expérience.
Mais on loupe aussi une rencontre avec l'œuvre. Pourquoi, en fait, voir une œuvre projetée? Je pense au Beau-de-Provence, par exemple, qui font des projections, je ne sais pas, par exemple, de Cézanne, prenons ça comme cas pratique. En quoi voir une œuvre projetée de Cézanne en immense sur ces parois des Beaux-de-Provence est plus attractif pour un public que voir l'œuvre réelle accrochée dans un musée?
En fait, ces propositions, elles se construisent vraiment, encore une fois, sur l'idée que c'est un discours ambiant qui nous vient un peu des années 70-80, ce qu'on va appeler le tournant gestionnaire et communicationnel des musées, c'est-à-dire que dans une idéologie de démocratisation culturelle, hein, donc une idée qui est tout à fait louable, d'ouvrir au plus grand nombre la culture qu'on estime légitime, hein, d'ailleurs on pourrait aussi s'interroger sur cette question-là, mais c'est un autre débat. Il y a tout un discours ambiant qui va progressivement être construit et qui va être intégré, hein, par les professionnels des musées. On le constate quand on échange régulièrement avec des conservateurs de musées, des médiateurs, des responsables de public, que le musée aurait l'image un peu poussiéreuse, un peu ennuyeuse, et que ces propositions-là, qui sont en réalité portées par des acteurs des industries culturelles et créatives, par des promoteurs d'outils numériques, etc., viendraient dépoussiérer ça.
Mais donc c'est un argument marketing, l'immersif, pour attirer ces nouveaux publics et pour changer son image ?
L'immersion, elle existe depuis au moins, on pourrait faire remonter, alors je ne vais pas remonter au mythe de la caverne, mais on pourrait remonter au moins, en tout cas pour les musées, au moins au 18e et 19e siècle. Les expositions coloniales, les expositions universelles, elles usent et elles abusent aussi de techniques immersives. Donc on n'a pas attendu le numérique pour faire de l'immersion. Mais c'est vrai que c'est un terme qui est devenu extrêmement à la mode et que les professionnels des musées incorporent, et même dans des propositions expographiques qui ne sont pas a priori immersives, on va essayer d'utiliser ce terme d'immersion pour s'adresser à un public en général plus jeune et qu'on croit attirer forcément par cette notion d'immersion, par l'expérience, par des outils numériques.
Je crois qu'on n'a pas fini d'en entendre parler de ces expositions immersives. En tout cas, merci beaucoup de ce point d'étape, Jessica de Bidoran.
Merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, la Comédie Française accueille un nouveau pensionnaire.
Oui, Charlie Faber, 27 ans, rejoindra cette saison la troupe du Français, formée au cours Florent puis au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. On a pu le voir dans les mises en scène de Lorraine de Sagazan, ou Clermont Hervieux-Léger, ou encore dans le spectacle Fleuve, le nid de cendres de Simon Falguière, qui avait fait sensation en 2022 au Festival d'Avignon. Pour ses débuts à la Comédie Française, il reprendra dès le 19 septembre le rôle de Trépleff dans Une mouette, d'après Tchekhov, mise en scène Elsa Grana, et il jouera ensuite dans l'école de danse de Carlo Goldoni, mise en scène par le nouveau directeur de la Comédie Française, Clément Hervieux-Léger.
Et pour finir, Marie, après 13 ans de bons et loyaux services, le Louvre se sépare de ses Nintendo 3DS.
Oui, depuis 2012, le Louvre mettait à disposition des visiteurs 5000 Nintendo 3DS convertis en audio-guide. Ces consoles étaient considérées comme un moyen de moderniser la médiation muséale. Les visiteurs pouvaient écouter des descriptions d'œuvres, regarder des détails de tableaux ou encore suivre des parcours thématiques. Cette proposition du Louvre était au début des années 2010 aussi inédite qu'innovante. Le musée avait d'ailleurs constaté dans les premier mois de leur mise en place, une augmentation de 37% des locations de guides.
Merci Marie, et on se retrouve demain.
À demain.
Pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.